Chromosome X, la nouvelle émission LGBT sur Vibration Gay Radio.
Bienvenue à tous sur Vibration Gay Radio dans cette émission Chromosome X où nous enregistrons bien une émission une fois par mois. Et là, nous sommes spécialement pour cette nouvelle émission au Théâtre Interface. Et comme d'habitude, avec notre équipe que vous connaissez désormais, nous sommes notamment avec Fanny. Salut Fanny.
Salut.
Et comment ça va?
Bah, plutôt bien.
On est en forme pour cette nouvelle émission où nous retrouvons aussi Sam.
Hello, bonjour.
Comment ça va, Sam? Aussi,
un
tout
peu
va
fatigué,
bien.
Mais ça va très bien.
Ouais. Mais oui, tout va bien. Et enfin, on est aussi avec Paul.
Oui, bonsoir.
Paul, la forme aussi.
Qu'est-ce qu'il est sérieux, ce garçon?
Il est extrêmement sérieux. Il fait toujours exprès de commencer en faisant comme s'il avait peur du micro. Non. Mais depuis le temps, tout va bien. Tu n'as pas trop de problèmes.
Non, ça roule.
Ça se passe assez bien. Bon, dans cette émission Chromosome X, spécialement au Théâtre Interface avec du public. En plus de ça, ça fait bien plaisir. Dans cette salle, bah oui, faites un petit peu de bruit. Dans cette salle blanche, vous l'appelez comme ça, Paul?
Voilà, ouais, c'est la salle blanche.
C'est peut-être parce qu'elle est blanche.
Et puis elle est blanche.
Je pense que c'est ça.
Ce qui contraste avec le théâtre qui est noir.
Voilà, et donc, t'appelles voilà. Ça la salle noire?
Non, on l'appelle le théâtre.
Oh, voilà. C'est nul.
Ça, aucune logique. Noire, c'est mieux.
Et ça aurait été cool d'avoir une salle rouge et l'appeler salle blanche. Tu t'aurais mis blanche, écrit juste blanche sur
ah
le
oui,
bord.
Ça aurait pu être bah, drôle.
Quoi que
ouais.
Si tu regardes les rideaux qui sont là, c'est rouge.
C'est rouge, non. Ouais. Bah voilà. Mais il faut quand même, et le bon. Côté théâtre, il faut qu'il y ait quand même des rideaux rouges. Bon, dans cette émission Chromosome X, eh bien, on va parler d'un grand sujet. C'est la fidélité dans le couple, ce soir. Waouh. Oulala. Voilà, c'est donc un grand sujet. On aura aussi l'occasion de découvrir Lucy Hopkins si vous ne la connaissez pas. Salut Lucy.
Hello,
comment ça va?
Très bien, merci. Comment ça va toi?
Mais ça va très bien. Paul, tu connais très bien Lucy.
Oui, je la connais malheureusement.
Ah, malheureusement, c'est un problème.
Cruel.
Donc Lucy, qui est donc une artiste qui vient de Londres.
Yes.
Oui. Et tu vas parler français quand même avec nous, ça c'est
mais
pas
bien
un problème.
Sûr, bien oui. Sûr.
Parce que tu
sûr.
Fais donc, t'as un one woman show, on dit ça,
oui.
En français, qu'on oui. A pu découvrir à Alpaguet. Donc pour toutes celles et ceux qui suivent aussi l'actualité d'Alpaguet, eh ben c'est trop tard, Lucie.
Voilà. C'était le 1er avril,
voilà.
Et c'était pas un poisson.
Voilà. C'était
voilà.
Pas une blague.
Eh ben tant pis quoi. Voilà.
C'était bien.
Non, on aura l'occasion quand même de découvrir ce que tu fais, Lucie. Ça sera donc d'ici quelques instants. Nous parlerons aussi de la campagne Break the Chains avec le chargé de prévention de l'antenne Sida Valley Roman. Ça fait très sérieux ça. C'est Emery qui est là-bas. Il va arriver donc tout à l'heure pour nous parler de cette campagne puisque ça se déroule en ce moment pendant le mois d'avril et ensuite aussi au mois de mai. On va aussi retrouver Paul qui sera avec nous avec une grande question. Êtes-vous queer?
Bah comme chaque mois quoi.
Comme chaque mois, oui.
Et voilà, ça sera êtes-vous queer?
Ah, tu peux rien nous
ouais,
dire.
Ouais, non, ça sera ça,
comme d'habitude.
Alors ça bah. Sera très audacieux ce mois-ci puisque ça sera un artiste plasticien, donc quelqu'un qui ne fait pas de bruit. Donc pour le présenter à la radio, c'est plutôt intéressant.
C'est particulièrement
bande sonore quand il fait son quand il fait ça.
Bon bah, on va voir si qu'est-ce que tu as réussi à nous faire avec
je vais me débrouiller ouais.
Avec cet artiste. Et puis enfin, on aura donc comme d'habitude en fin d'émission une partie un petit peu plus sexo et cette fois-ci, on va parler donc des couples libres versus les couples exclusifs. Ça va un petit peu dans le même sens que la fidélité dans le couple au début, mais là on va parler un petit peu plus de ce que ça a comme implication au niveau sexuel. Ben, c'est vrai que c'est quelque chose, un sujet qui est des fois régulièrement évoqué au sein des couples LGBT.
Il y a Fanny qui commence déjà à rire.
Ouais, elle...
Non, mais c'est Sam qui joue avec mon câble.
Mais ouais, c'est très bien que j'adore jouer avec ton câble.
C'est ce qu'on dit, voilà, ça commence comme ça. On commence
passion.
À jouer par son câble, avec son câble, et puis après c'est foutu, quoi.
C'est
bref,
ça.
Donc d'ici quelques instants, eh bien, on va découvrir Lucy Hopkins, mais juste avant ça, un petit peu de musique. Dans cette émission Chromosome X, c'est ce qui arrive maintenant avec Alan Walker et Faded. Belle soirée à tous. I lie.
Vibration Gay Radio.
J'ai une équipe particulièrement déchaînée là, il me semble, avec ce titre Aluna George à l'instant sur Vibration Gay Radio, avec tout le monde qui s'est
dansé,
à danser. Ça fait bien plaisir. Et du coup, ben Lucie, qui est avec nous, qui se sent les deux sous de bras. Ça commence bien. Je sais pas si on va arriver au bout de cette émission. Lucie, qui est avec nous, Sam.
Mais oui, Lucie Hopkins, elle nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission Chromosome X ici à Interface. Lucie, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, je suis ravie d'être ici. Merci d'avoir m'accueilli.
Avec plaisir.
On c'est drôle, il y avait tous les mots mais sans la conjugaison.
Faut pas que tu lui expliques, Paul.
Je t'emmerde. Juste clairement.
Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Oh, maybe. Bonsoir, je suis Lucie Hopkins. Je suis une artiste et une clown qui habite à Londres.
D'accord, très bien. Donc tu n'as pas de gros nez rouge, tu n'as pas de gros souliers.
Non, surtout pas.
Mais tu es une clown quand même.
Oui, j'assume.
Tu assumes.
Oui.
C'est une clown sérieuse.
Voilà. Oui, exactement, c'est les clowns artistiques.
Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment recherché.
Ah ben oui, ouais. C'est profond.
C'est profond.
Ouais. Et j'ai ri, mais c'est vrai en plus.
Et donc hier soir, tu as donné, enfin le 1er avril en fait, tu as donné une représentation de ton spectacle
oui.
Full Art.
Oui. Ça, c'est la version française d'un spectacle que j'ai beaucoup tourné en version anglaise, qui est un spectacle solo que j'ai créé. J'avais envie de créer quelque chose seul. Et puis, j'essaye de faire quelque chose. J'avais une idée que j'avais envie de créer quelque chose d'une grande qualité, de très artistique, de... Qui touchait tout le monde, et j'ai commencé à travailler et j'ai trouvé que les choses ridicules que je vous cache pas étaient assez dures à accepter. C'est assez gênant.
Ah bon?
Ah ben oui, bien sûr.
Ah, j'ai l'impression que tu acceptais ça de manière assez facile.
Ah oui, non, mais c'est pris du temps. C'est une grosse recherche.
Ah, ok.
Ah oui, non, mais c'était vraiment c'était un truc. Un moment donné, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus intéressant quand on fait avec ce qu'on a. Essayer d'être quelque chose, et aussi ces difficultés quand on essaye d'être quelque chose et puis on peut pas parce que si tu vas contre soi et tout ça, ouais. tout ça. Donc finalement, avec les choses que j'ai découvert pendant ce travail, j'ai créé un spectacle avec qui est l'histoire d'une artiste qui essaie de faire une grande show et qui est bousculée par les personnages qu'elle a créés. Et voilà, donc c'était ça le spectacle.
Et donc tu as fait un spectacle avec un foulard.
C'est vrai.
D'où le nom, c'est un jeu de mots avec le titre du spectacle.
C'est un jeu de mots qui a été trouvé par Nicole Patin.
C'est cela.
C'est ma mère de Paul.
C'est ma maman.
Ouais, wow. C'est mignon.
Nicole,
ouais.
Si tu nous écoutes.
Ouais, exactement. Par hasard, parce que Paul il a dit, oui, c'est un spectacle, il s'appelle le foulard. Et Nicole a dit, mais le foulard, c'est un truc artistique. Et Paul il a fait...
Attends, je l'avais au téléphone, non. J'ai fait, je raccroche, je vais voir Lucie.
Ouais, on était plutôt contents.
Et donc tu parles de trois personnages, hein, tu fais trois personnages différents avec cette...
Ouais, quatre.
Ou quatre, ouais, pardon, possible. Ouais. Quatre personnages avec un foulard, est-ce que tu pourrais nous décrire ces personnages déjà? Comment ils te sont venus
oh
en
my
tête?
God. Ok, il y a une personnage qui est très... Une personnage qui est d'un accent... espagnol, peut-être italien, je sais pas, qui est un mélange d'une ex-copain de moi qui était espagnol et hyper dominant, et une amie italienne qui est l'amie la plus dramatique que j'ai jamais rencontrée. Elle est en plein dans le mélodrame. Elle était toujours comme, tu sais, et elle me voit, elle me dit, ah ben, non, mais je peux pas le faire en français. Anyway, c'est venu d'un mélange de une... quelqu'un qui est très timide, mais très optimiste, qui veut surtout être avec les gens, mais elle n'a rien compris au niveau d'où elle est, ou même si c'est possible d'y aller, mais elle est pleine d'optimisme et qui vient de moi. Et une artiste qui est sûre qu'elle sait exactement ce qu'il faut faire, et qui est très assurée, et qui vient de ma mère.
D'accord. On sent que les mamans aujourd'hui sont vraiment à tous les. Elles sont très
merci
présentes.
Les mamans.
Ouais,
merci les mamans.
Merci les mamans. Exactement. Ouais,
ouais. Et puis, alors, du coup, comment t'es venue l'idée de faire ce spectacle en français, puisque tu viens de Londres?
C'était une très bonne rencontre que j'ai fait avec Paul Patin.
Ah, c'est lui toujours.
Oui, totalement.
C'est à cause de moi.
C'est totalement à cause de lui. Il est venu voir mon spectacle en Edinburgh. Et il a. Parce qu'on a un ami en commun. Et il a aimé, mais en fait, normalement, je dois lui parler pour lui aider, pour faire ses recherches à Edinburgh, que je ne pourrais pas faire parce que je faisais un truc seul et j'étais complètement débordée. C'était la bordel. Donc, au lieu de ça, on s'est rencontrés après, on a parlé, on s'est beaucoup amusé. Et à un moment donné, il a dit, j'aimerais bien que tu viennes en Valais, mais ils ne vont rien comprendre, les Valaisans.
En anglais, c'est vrai.
J'ai pas sous-estimé les Valaisans à ce moment-là. Je me suis juste dit, moi j'avais énormément envie de programmer son spectacle parce que j'avais été juste, mais chamboulé énormément par la version anglaise. Et puis je me suis dit, mais je vais pas programmer ça en anglais. Il va y avoir quoi? 5 personnes qui vont se pointer à un spectacle d'une heure en anglais. Même si justement les Valaisans parlent plutôt bien anglais quand même. Globalement,
ah, oui,
je pense
ça,
qu'on aurait pu avoir un petit peu du monde. Mais c'était dur quand même, une heure de spectacle en anglais. Et puis j'ai dit, mince, c'est dommage, quoi.
Oui, à un moment donné, il y avait la possibilité de faire une résidence ici.
Voilà, et puis ça, c'est toi qui m'as évoqué l'idée que tu avais envie de le faire en français à ce moment-là.
Oui.
Que ça te courait dans la tête, quoi.
Oui.
Et puis là, j'ai dit, ouh, stop, on arrête tout, on trouve une solution pour pouvoir avoir une résidence, un temps de travail pour faire la traduction. Et puis c'est de là qu'est arrivée la version française.
Oui, j'étais très bien accueillie ici, j'ai trouvé le lieu super, j'adorais les gens. Voilà. Mmh. J'ai fait ça, j'étais ravie.
Bah tant mieux.
Ouais.
Nous aussi d'ailleurs, on a pu voir donc ta pièce, c'était vraiment intéressant. Et justement sur le côté esthétique.
Oh, thank you.
Tu connais non mais tu fais quatre personnages avec un foulard, tu t'amuses avec ce foulard sur scène. Comment c'était venu cette idée-là?
Mais parce qu'il est beau, le foulard.
Oui, alors déjà.
Ouais, donc, c'est vrai. Il est grand.
C'est un grand foulard
noir.
Ouais, c'est un grand foulard en soie. Et donc déjà, le soie, il est beau, quoi. Et c'est hyper théâtral, en fait.
C'est vrai qu'hier soir, c'était beau avec ces jeux de lumière comme ça qui brillaient. Voilà. Magnifique.
Jeu de lumière qui était de nouveau fait par Paul. Hein.
C'est aussi de ma faute.
Mais Paul, on croyait que c'était un simple animateur chez nous, mais en fait, t'es multitâche. Qu'est-ce qui t'arrive, Paul?
Je fais beaucoup de trucs à côté, mais je fais des bêtises. Quoi.
Ouais, on vient de remarquer qu'il avait une vie.
genre, t'as une vie professionnelle.
J'ai aussi une vie professionnelle en parallèle.
Non, une vie artistique.
Une vie artistique, oui.
Mais professionnelle.
Oui.
Et professionnelle.
Sérieux, quoi.
Et sérieux.
T'es un artiste sérieux. En fait.
Ça se voit.
Non,
mais c'est vrai que depuis que j'ai rencontré Lucie, je l'accompagne beaucoup parce que j'ai beaucoup de plaisir à le faire, en fait, simplement, quoi. Et puis du coup, il fallait pour le 1er avril à Alpaguet, il fallait effectivement assurer les lumières avec un matériel minimal. Et puis du coup, j'ai beaucoup vu le spectacle de Lucie et puis je me suis lancé sans elle. C'était assez audacieux de me dire allez je le fais et puis en fait non c'est, on se connaît, on commence à bien se connaître et puis je connais bien les attentes de Lucie et puis
qui sont très hautes.
Elle est assez exigeante. C'est plutôt une bonne chose, c'est quelque chose de très positif et puis
Combien elle te paye pour dire ça?
Rien du tout. Elle a juste peur qu'après on prenne pour son manager.
Ah voilà, d'accord.
Et ça, c'est sa plus grande hantise.
Et puis, tu évoquais avant, quand tu répondais à une question précédente, donc le fait d'être seule sur scène.
Oui, j'adore.
Tu adores. Ouais. Avant, parlons un peu d'ailleurs de tes débuts, comment tu as commencé?
En fait, c'était parce que j'ai vécu à Paris pendant 10 ans. Et j'ai quitté Londres dans une grande drame. J'ai quitté Londres, j'ai fui avec cet Espagnol, un acteur, comédien espagnol à Paris quand j'avais 23 ans. J'ai coupé toutes les connexions, tous les gens que je connaissais. Et j'ai fait que à Paris, j'ai fait mon entraînement théâtral. Et puis la relation s'est arrêtée avec l'Espagnol, qui était bien, qui était un bon truc. Et puis, je me suis dit, merde, il faut que je retourne. Mais comme j'avais quitté dans une grande drame, il fallait que je retourne avec quelque chose. Il fallait que je fasse quelque chose pour avoir le droit d'y retourner bien, quoi. J'étais en train de faire quelque chose. Oui, je ne faisais pas juste n'importe quoi. C'était que j'ai réussi quelque chose. Et donc, j'étais comme, je vais faire un spectacle. Alors, je fais un spectacle. Ben, voilà. Et comme j'avais envie de voir qu'est-ce que je faisais si je travaillais toute seule, parce que j'avais une idée de comme ça, je pourrais créer plus de travail après. J'ai commencé comme ça, parce que j'avais pas de fric pour embaucher d'autres artistes, ni un metteur en scène, donc j'ai juste commencé, quoi. Donc, j'étais seule en scène pour des raisons pratiques, tout à fait pratiques.
D'accord.
Oui, et aussi comme ça, je pourrais faire. Je pourrais faire n'importe où, je pourrais faire comme moi, j'étais prête de faire, je pourrais juste faire mon truc. Et j'avais pas besoin d'attendre que les disponibilités d'autres, ou de l'argent, ou... quoi que ce soit.
Ouais, et pouvoir faire selon ton idée.
Exactly. Et pas devoir m'expliquer ni persuader. J'avais envie, à ce moment-là, j'avais besoin d'un espace où c'était moi qui disais comment les choses se déroulaient. À cause de plein de raisons, c'était comme, non, là, je fais ce que je veux. Et si je me casse la gueule, et je me suis cassé la gueule plein de fois.
C'est pour mieux se relever.
Ouais. Et comme ça, je pourrais dire, très bien, mais maintenant j'ai pris ça pour vraiment prendre la responsabilité pour ça. Et ça, surtout dans un travail de clown, où il faut être vraiment en contact avec le public, les choses qu'il faut faire, c'est de se casser la gueule, en fait. Comme ça, tu le ressens, qu'est-ce que c'est, et comme ça, tu grandis, tu fais plus ces erreurs, quoi. C'est hyper important, malheureusement. Voilà, donc c'était un truc pratique. C'était un truc pratique. Yes. Mais maintenant, je travaille avec plein d'autres compagnies, en plein de rôles différents, parce que quand même, c'était un peu seul.
Trop seul.
Ouais.
C'est vrai que quand t'es tout seul, t'es tout seul, effectivement.
Exactement. Donc, même quand ça se passe bien, en fait, le truc est que personne ne veut entendre de tes réussites. Si c'est pas très, très proche, les gens veulent pas. C'est très seul.
Ouais.
En fait, ouais, trop.
Trop.
Voilà. Donc maintenant, je traîne ici avec Paul.
Elle essaye de garder Paul près d'elle, c'est ça?
Oui, voilà.
Je suis trop seule.
Il me propose les choses, ah, d'être avec d'autres personnes.
Et puis, j'ai juste une question qui a rien à voir avec ça, mais pour toi, être idiot, c'est quoi?
Parce qu'en plus de ça, tu fais un stage ici. Hein,
oui, je fais un stage. Mais je viens juste de finir ce stage.
Justement,
mais, il y a 20 minutes.
Oui, c'est ça. Ouais. Ils sont tous là en plus. Il y a une bonne partie qui sont là, qui ont participé à ce stage.
C'est les gens qui sont épuisés au fond de la salle.
Oui, voilà. C'est les gens en larmes par là.
C'est les gens qui s'évertuent à dire bonjour au micro comme ça, avec les mains.
Ça épuise d'être idiot, c'est ça?
Apparemment.
Hein. C'est épuisant.
Ils sont tous lessivés.
Oui, totalement.
C'est déjà quoi l'intitulé de ton stage? C'est
une introduction à l'art d'être idiot.
Ah oui, l'art d'être idiot.
Ouais,
d'être
un idiot. Bien sûr.
Mmh. L'art d'être un idiot.
Ouais, c'est tout.
Alors justement...
Ah bah, c'est quoi ce bordel?
Qu'est-ce que c'est ce truc?
Ça veut dire d'être soi-même dans une manière que tu permets que tout le monde te voit comme tu es. Et ça, c'est idiot. Non, c'est idiot. C'est quelque chose que, selon moi, ce n'est pas trop permis dans notre société, en fait. D'être soi-même, de pouvoir rater, de pouvoir essayer, de pouvoir de se montrer comme on est, pas mm-hmm. comme on aimerait bien être aperçu, mais juste comme on est, en fait. Et on voit les choses qu'on voit et que tout le monde est hyper beau, en fait. C'est ça qu'on voit chaque fois. Chaque fois que je fais ce stage, je constate encore qu'on est très beau, des humains. En fait, il n'y a pas une personne moche, ça n'existe pas, en fait. Donc, dès qu'on voit ça, peu importe ce qu'on montre, peu importe ce qu'on fait, et quand on voit l'envie d'une personne d'être avec les autres, exactement dans sa manière, dans sa propre façon d'être, ben c'est tout, quoi. C'est énormément touchant, c'est comme regarder les étoiles, on voit tout. Et c'est un travail... que j'adore faire. Le plus que je fais, le plus que je vois que jusqu'à quel point on est beau, quoi. On est beau. Mais c'est un muscle. Il faut l'entraîner. Parce qu'on apprend depuis tout petit de se cacher.
Oui. Mais, ouais, l'idiotie, ouais, ça se travaille.
Bien sûr. En fait, d'être soi, ça travaille. Ouais. Bien sûr. Et on apprend de se cacher et aussi de ne pas se voir. Parce que vaut mieux pas. Tu sais, on a plein de conneries dans notre manière de vivre.
Un peu la honte.
Oui,
c'est beaucoup la honte qui influence, j'imagine.
Oui, beaucoup. Ouais. Mais la honte, il est partout dans notre truc. Tu sais, on a plein de conneries. Et dès qu'on se permet, et dans un théâtre, dans le milieu du théâtre ou sur la scène, c'est comme un lieu magique. Où on peut tout montrer. Donc, c'est difficile de travailler sur soi. Mais on peut travailler sur soi pour aller sur la scène, pour aller devant un public, pour partager quelque chose avec les gens dans une manière qui est plus accessible. Mmh. On n'a pas besoin de résoudre le monde. On n'a pas besoin d'être en harmonie dans sa vie. Mais qui sait faire ça? Mais on peut apprendre comment être en relation avec un public. Et après, ça a des effets, je crois. Ben, j'en sais rien.
Justement, ta relation avec le public, par rapport à tes représentations, ton one-woman show, quelles sont tes impressions? Enfin, tu disais que c'était difficile de voir un petit peu ce que le public ressent, mais en général, la critique est positive. Enfin, je ne sais pas comment trop formuler ma question. Ce n'est pas facile parce qu'on touche un domaine quand même qui est délicat. Mais comment tu ressens ça?
Des fois, c'est hyper douloureux. Mais ça dépend si c'est différent chaque fois. Chaque fois, c'est complètement différent parce que les configurations des personnes dans une salle, le temps, l'air,
le lieu,
ouais,
tout,
tout est différent.
Les mentalités donc, aussi.
Oui, mais tout. Et la mentalité de chaque personne. Et qu'est-ce que ça fait quand ce groupe devient un truc? Parce qu'un public, c'est pas les individus, c'est quelque chose qui se passe, ouais, quand tous ces individus petits qu'ils sont, ouais, donc c'est différent chaque fois. Aussi moi je suis différente, donc Et le travail, je trouve, c'est juste d'essayer de chercher ce contact. On cherche. Et si on cherche ce contact dans une manière vraie, on ressent qu'on cherche ce contact. Et ça répond. Et plutôt, la réponse est plutôt positive. Mais ça ne dépend pas toujours.
Oui, justement, c'est difficile des fois, toi, d'être vraiment à l'aise avec ce que tu fais quand le public est un peu plus fermé, disons, de l'esprit ou moins de retour.
Ça vient mieux avec l'expérience. Mais quand on était en Avignon, par exemple, des fois, c'est difficile. Quand on était en Avignon, il y avait... Je ne sais pas si tu étais là cette soir. Il y avait une mec sur le premier rang. Et cette artiste que je joue, elle pose plein de questions au public, mais c'est des questions rhétoriques.
Oui, c'est ça.
Oui,
c'est
ça. Rhétorique qu'elle n'attend pas une réponse, en fait. Il y avait un mec sur le premier rang. Et j'ai dit, à un moment donné, mais qui sommes-nous? Et lui, il a dit, ben, moi, j'en sais rien. J'en sais rien. Et j'étais comme... Oui, très bien. Et après, un moment donné, j'ai dit quelque chose vers la fin du spectacle. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas ce que je fais. Et lui, il a dit, moi non plus. Mais c'était très juste ce qu'il disait. Mais c'est la difficulté d'essayer d'être avec ça, mais de ne pas couper la réalité, mais quand même continuer le spectacle, ouais. comme il faut, tu sais. Donc il y a toujours quelque chose. Quand on est vraiment en relation avec le public, il y a plein, mais c'est dangereux.
Mais c'est toujours différent.
Oui, c'est toujours
différent. Pas à quoi on s'attend.
Exactement.
Mais c'est effectivement très dangereux.
C'est
parce
hyper
que
dangereux.
Tout d'un coup, les gens se sentent libres
ouais.
oui.
d'y aller, quoi. Donc s'il y a tout d'un coup quelqu'un qui se dit, elle me pose une question, effectivement, bah, je vais répondre.
Oui.
Et puis, dans le travail que fait Lucie, bah, elle ne peut pas faire comme si cette personne n'existait pas.
Ouais.
Donc, tout d'un coup, bah, si décidait de rentrer carrément en conversation avec, oui. avec les personnages, tu te retrouverais obligé de répondre.
Ferme-la, monsieur.
Au bout d'un moment, oui, aussi. aussi.
Mais oui, tout à fait.
Maintenant, ça suffit, monsieur.
Oui, ça m'est arrivé de faire chut. Ouais. Non, genre juste faire ça, quoi. Oui, mais c'est bien, j'aime bien le danger.
Ouais.
Donc oui, c'est bien.
J'imagine, ça peut être. La scène, c'est déjà un danger, non?
Oui,
ouais, c'est
faut
sans
être
filet.
Fou déjà pour aller sur scène. Hein,
oui, c'est clair.
Ouais. Bon, et... ouais, t'as encore. Tu veux,
bon,
tu
juste,
veux continuer
est-ce que tu as des projets après?
Oh, yeah, loads. Je fais un nouveau spectacle en ce moment. Je travaille un nouveau solo qui s'appelle Ambition. Et là-dedans, je vais régler tous les problèmes du monde.
Ah, excellent, c'est un bon concept.
Ouais. Donc je vous en prie, ne vous inquiétez pas, parce que ça arrive. Ça
enfin,
va être bientôt réglé.
Enfin, tout est réglé.
Oui, exactement. Quoi d'autre? J'ai plein de projets. En fait, j'ai continué à faire des stages que j'adore faire. C'est une très belle expérience. Quoi d'autre? Je vais créer des choses maintenant pendant qu'on parle d'autres choses pour vous dire.
Donc, on peut suivre.
Imagine d'autres choses.
Ok,
on peut suivre
choses.
Un petit peu ton parcours donc sur www.luciehopkins.eu.
Exactly.
D'accord.
Europe.
Sur Facebook aussi.
Oui.
Donc là, il y a les informations des tes nouveaux
oui.
projets quand tu les concrétises. Donc si on veut suivre ce que tu fais,
ah oui, bien
on a
sûr.
Juste à aller voir.
Oui, j'ai travaillé avec plein de gens, je fais plein de choses différentes, donc je mets toujours un peu des nouveaux là-bas. Oui. Mm-hmm.
Très bien, merci.
Excellent.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Mais Lucie, tu vas rester quand même avec nous, puisque
oui. Va partir.
Il me semble que tu as quelques avis sur la fidélité dans le couple.
Probablement.
On va en parler dans quelques instants sur Vibration Gay Radio, dans cette émission Chromosome X, puisque nous sommes deux heures ensemble. Et donc, notre prochain sujet concerne la fidélité dans le couple. On va aussi retrouver plus tard l'agenda, ainsi que Êtes-vous queer? Belle soirée à tous. Voici tout de suite Calvin Harris.
Chromosome X sur Vibration Gay Radio.
I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion?
LGBT sur Vibration Gay Radio.
From me, drink from me. When I was sick.
Vibration Gay Radio avec Coldplay à l'instant et le titre In for the Weekend. Nous sommes dans cette émission Chromosome X avec un grand sujet que l'on va aborder ensemble maintenant. Il s'agit de la fidélité dans le couple. Je m'imagine qu'il y aura plusieurs personnes qui auront peut-être envie de réagir. Si vous êtes dans le public aussi avec l'envie de réagir, ben pourquoi pas. Juste avant ça, je vais quand même vous donner quelques petites informations. Ça va quand même vous amener quelques petites informations qui vont pouvoir un peu distiller dans votre cerveau. C'est toujours comme ça, je vois, je vais un petit peu amener le trouble.
Oui, Jonathan, il nous donne des définitions parce que sinon on sait pas, nous.
Non, vous savez
on
pas.
On comprend pas.
Non, après vous partez après, n'importe où et j'arrive plus à vous
quoi.
Gérer. Donc,
voilà.
C'est pas possible.
Okay. Donc, ça arrive jamais, ça.
Je vais vous troubler d'abord et ensuite je peux mieux vous gérer. C'est pour mieux vous manipuler après.
Il y a une stratégie là derrière.
Exactement.
On accepte.
Non.
Alors, moi, j'ai
non.
trouvé quelques petites informations, notamment une étude qui a été réalisée par l'université de San Francisco en 1975 et puis en 2000 sur.
C'est vachement récent, hein.
Attends, donne les dates.
En 75 et 2000, mais c'est la comparaison qui va être intéressante
d'accord.
entre les années
okay.
75 et 2000 sur 6864 individus. On s'en fout, qui révèle donc que le pourcentage d'infidélité chez les couples gays aurait nettement chuté. En effet, 83% des hommes homosexuels avouaient entretenir des relations sexuelles extra-conjugale et 28% des lesbiennes en 1975, donc retenez 83 et 28. Et puis en 2000, ces chiffres avaient respectivement baissé 59% pour les hommes et 8% chez les femmes. Voilà pour ce qui est donc de ce premier trouble que je vous amène. Voilà.
Ça marche.
C'est très bien.
Okay.
Ensuite, le deuxième trouble, eh bien, c'est que selon cette étude, il semblerait aussi que les couples gays qui sont en campagne soient plus fidèles que les couples qui sont donc en ville où il y a.
Ouais, mais bon, ça forcément.
Parce qu'il y a moins de monde.
Voilà. Déjà,
ouais, parce
y a
avec les vaches, c'est pas spécialement intéressant. Hein, déjà.
Et qu'il y a aussi un milieu gay qui est pourvu donc de nombreux lieux où il est très facile de faire des rencontres, notamment la nuit. Non, d'une nuit, pardon, la nuit. D'une seule nuit, pardon. Et enfin, la dernière chose que je vais vous citer, parce qu'en cherchant donc quelques informations sur le sujet, beaucoup d'articles citaient un certain Arnaud Lersch. C'est déjà bizarre comme nom. Arnaud Lersch, c'est un sociologue au Centre de Recherche sur les Liens Sociaux, le CERLIS. Je ne sais pas si vous connaissiez qu'il y avait donc un centre comme ça qui existait. Selon lui, il a donc essayé d'expliquer de manière un peu sociale ben, l'infidélité chez les couples gays et lesbiens. Selon donc une étude, il dit donc que... attendez, je suis en train de me perdre. Ah, qu'il y a donc des raisons historiques très concrètes qui donc explique ça, du fait de la stigmatisation de la sexualité entre hommes qui s'est longtemps résumée à la consommation sexuelle anonyme, parce qu'en fait on était discriminé et qu'il ne fallait donc ne pas se montrer, donc du coup ben on était forcé.
Qu'est-ce qui se passe?
Elle vient de manger un bout de chocolat.
Ouais.
Ça fait clac.
Du coup ils étaient forcés à de la consommation sexuelle anonyme et la question affective et la question sexuelle sont donc devenues plus autonomes selon le monsieur. Ce qui fait qu'ensuite, dans les articles, beaucoup de personnes sont plutôt pas vraiment d'accord avec ce fameux Arnaud Lersch, mais il est cité dans plusieurs articles. Donc du coup, je voulais aussi vous l'amener. Et du coup, bah, vous
deuxième
lancez cette question. Vous en pensez quoi?
Oui, alors effectivement, cette dernière information paraît assez...
Wow, c'est vrai que ça me trouble, tout cette information.
Non, ça ne m'a pas tellement troublé, je trouve ça plutôt concret.
Mais c'est parce que j'ai rien compris.
Oui, voilà, Lucie, c'était trop rapide, c'était en français, il y avait plein de chiffres, on l'a perdu, mais... Je t'expliquerai en cours de route. Et puis, non, mais après, oui, c'est des études qui ont l'air assez, assez
bon, la première étude a l'air assez pertinente. La deuxième, donc, le fameux Arnaud Lersch, qui donc reprend un petit peu l'homosexualité dans les années 80 et qui trouve là une raison historique au fait qu'on doit se cacher et du coup...
Bah, du coup, c'est forcément c'est plus facile d'être infidèle et puis d'avoir des relations extra-conjugales si déjà la première relation... Et caché, forcément, on va dire qu'il y a des certaines facilités. Moi, ça me semble plutôt.
D'autres personnes parlent aussi du fait que l'absence donc de liens comme le mariage ou des enfants font que des fois les relations peuvent être plus facilement. On peut plus casser une relation sans avoir des grosses conséquences pour la suite aussi vis-à-vis des couples hétéros, par exemple. C'était aussi ce qui était cité assez régulièrement.
Du coup,
gros silence. Je vous ai vraiment troublé.
Ouais. Non, mais on n'était pas là, quoi.
J'étais en train de réfléchir en. Mais qu'est-ce que c'est la fidélité en soi-même?
On peut commencer par le début du début.
Oui,
exactement.
C'est quoi cette histoire d'être fidèle? Et pourquoi définir fidèle de ne avec qui on partage le sexe? Et pourquoi pas les fidélités soient style, quelque chose de...
d'exclusif.
Non, je veux dire au niveau de la fidélité.
Sentimental
de, non, juste honnêteté. Quoi.
Ah, honnêteté, oui.
Ouais, d'être honnête, d'être présent avec une autre personne, de se montrer, d'être ensemble, quoi. Mm-hmm. Et après, on le réduit à quelque part un acte sexuel qui veut dire qu'on peut être sexuellement fidèle dans un couple, mais pas fidèle de soi, de l'autre, de le couple, de le concept en fait. J'amène ça.
Mais c'est vrai qu'à part ça, la fidélité, elle peut parfois dépasser justement que le sexe. Hein. Il y a des couples qui n'ont plus de relations nécessairement sexuelles, mais qui gardent un lien très fort et puis qui s'autorisent peut-être aussi. Bah, ça, c'est plus souvent dans les couples LGBT qui s'autorisent des aventures sexuelles ailleurs, mais pourtant le lien reste très fort.
Mais ça, c'est fidèle pour
moi. C'est fidèle.
C'est fidèle, mais pas exclusif.
Mais je pense,
c'est une sorte de fidélité.
Je pense qu'il fallait pas attendre le milieu LGBT pour que ça existe. Je pense que si on voit les générations passées de nos parents, de nos arrière-grands-parents, avec ces mariages qui duraient des décennies et des décennies, des choses qui
arrangées, qui plus est,
et puis des mariages arrangés, c'était des mariages de bonne convenance, on va dire, pas forcément arrangés, mais où c'était la bonne personne qui allait avec. Et puis ces mariages qu'on voit des couples heureux, enfin moi j'en ai vu des vieux, justement très vieux, qui sont restés ensemble main dans la main, tu vois, jusqu'au bout, alors que c'était pas un mariage d'amour, ils avaient pas forcément envie d'être ensemble, mais par contre, ils ont créé une fidélité entre eux.
Ils ont créé des liens.
Mais qui sont justement pas basés sur l'amour, pas basés sur le sexe, et qui sont basés sur d'autres choses qui peuvent être matérielles au départ, et qui sont devenues après des valeurs hyper fortes dans leur couple.
Ah, ils créent les valeurs, ouais.
Et très fortes. Et je pense que ça, c'est des valeurs de fidélité qui sont assez incroyables, quoi. Et puis je pense qu'en plus, dans ces couples-là, ça n'empêchait pas que les partenaires puissent aller ailleurs.
T'imagines que dans ces relations, il s'est
mais je pense
passé
que
des choses en
moi j'imagine assez bien ça. Surtout ce que j'imagine, c'est que ça rompait pas la fidélité entre les deux personnes.
Ok.
Que c'était pas quelque
chose
que
je me demandais
qui
si c'était pas
qui entamait la relation entre les couples à cette époque-là.
Mais je me demandais si en fait c'était pas quelque chose qui est vraiment un sujet actuel, parce qu'on n'en parlait pas vraiment, j'imagine, avant. Ça allait un peu de soi, finalement, cette fidélité. Et peut-être que des choses se passaient, mais par derrière, sans qu'on sache, enfin, de manière cachée. Et c'est maintenant qu'on...
Je noterai pas le pardon.
Ouais, voilà, j'allais dire
sans jeu de mots grave-le.
Sans jeu de mots, ouais. Mais c'est peut-être plus maintenant où il y a une recherche de l'épanouissement sexuel. Donc on en parle beaucoup plus. Il faut que on cherche vraiment une relation dans laquelle on aille vraiment tout désormais. On veut que ça marche à 100% au niveau des sentiments, 100% au niveau sexuel, 100%. Et du coup, on s'accorde moins de... Comment dire? De
compromis.
De compromis, ouais.
Bien sûr,
ça,
ouais.
Bon, ça devient intelligent.
Moi, j'ai assez l'impression de ça, moi. Que dans les relations passées, justement, et puis sur le concept du mariage, même tel qu'il était au départ. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur le mariage qui se posent globalement, quoi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que le mariage, c'était pas quelque chose, c'était pas une valeur de l'amour, le mariage.
C'était pratique.
C'était une question pratique.
Mais aussi, c'est pratique, partager.
Parce qu'à deux,
vie.
Tu t'en sors, quoi. Oui, c'est
exactement.
Tout, point, à un moment.
Mais c'est pareil maintenant, c'est pareil ça, maintenant. Que quand on est en couple, quand on vit à deux, les choses sont plus faciles. On n'a pas besoin de toujours faire manger seul, quoi. Tu sais, il y a quelqu'un, on peut prendre. Donc les choses pratiques comme ça devient plus facile. Mais c'est pas. Mais après, on le confond avec cette idée on essaie de mettre pour moi, on essaie de mettre tous les œufs dans le même corbeil. Ça, c'est une expression anglaise.
Non, mais on a la même en français. Ouais. Dans le même panier,
Ouais. Pas la corbeille.
Panier, ah oui, voilà.
Il faut être précis, hein. On précise ou pas.
Oui, donc on essaie, on a une attente énormément haute sur les relations de couple et sur nos relations avec d'autres personnes qui est pas raisonnable, quoi. Qui est pas raisonnable. Ça nous amène... selon moi. Sauf si, ça, en plein de manières, ça arrange. Si c'est renouvelé chaque fois, tu sais, si c'est vivant, pourquoi pas, quoi. Mais que ça, c'est le niveau de base, et autre chose, et étrange,
Mais
con.
Mais alors, pour vous, de manière basique, alors, comment vous la vivez, vous avez vécu vos fidélités, et comment vous voyez la fidélité vous êtes, vous avez eu des couples, vous êtes en couple, enfin, c'est, alors, un peu,
qui,
c'est un
qui
peu
se
égal.
Sent fidèle déjà.
Moi, je suis fidèle.
Mais ça veut dire quoi alors? Par exemple, Fanny, pour toi, cette fidélité, tu la traduis comment tous les jours?
Tous les jours. Comment dire?
Je regarde pas à côté.
Mais non, mais c'est ça. Mais
je prends pas de dessert.
Je pense que
elle vient d'arriver en plus.
Oui,
merde.
En plus, elle vient d'arriver. Elle se met pile devant pour que. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, la fidélité, mais je pense que t'as pas besoin de lutter. Si tu aimes la personne, si t'es bien avec elle, tu te poses même pas la question et tu vois qu'elle t'en vit que d'elle. Voilà. Coucou chérie.
Alors, ah mince, moi je pensais la choper avant qu'elle arrive pour vite et qu'elle nous raconte quelque chose sans qu'elle. Voilà.
C'est la radio.
Ouais, c'est la radio.
C'est vrai, c'est pas vrai. Comme s'il y avait une possibilité de réécouter.
Voilà, non. Tout ce que vous dites là est imprimé à vie, sachez-le.
Voilà.
Paul, par exemple, toi, la fidélité, c'est.
Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours été très fidèle. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'ai pas une définition de la fidélité, je pense, qui est raccord avec.
C'est ça qui est intéressant.
Avec les études, avec justement les chiffres des études qu'on a entendu avant. Si tu veux. C'est assez particulier parce que je pense que par exemple la première étude qui montrait que les pourcentages avaient baissé dans les couples gays et lesbiens, moi j'aurais répondu que j'étais fidèle, mais je pense que par rapport aux critères de l'étude, non, je devais rentrer dans la case
d'accord,
pas fidèle.
Ok, d'accord.
Mais la fidélité, je pense qu'elle est, elle est propre à chacun et à chaque couple. Et
oui,
on peut pas.
Mais pour moi, c'est vraiment.
On peut pas juger.
Et pour chaque personne aussi.
C'est ça.
C'est ça. Mais et puis c'est surtout un accord avec l'autre de qu'est-ce que tu
veux. Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Qu'est-ce que tu veux construire avec la personne avec qui justement tu rentres dans une relation de fidélité. Mais pour moi aussi, la fidélité, elle est très présente dans l'amitié. Et puis comme disait Fanny, c'est pas quelque chose que tu décides. J'essaye toujours aussi de ramener à l'amitié les rapports par rapport aux rapports amoureux et de couple, parce qu'avec l'amitié on se pose beaucoup moins de questions par rapport à ça, alors que c'est des sentiments hyper forts. Je veux dire, on a des amis, certains c'est on est sûr que ça va être pour la vie, quoi. On rencontre quelqu'un avec qui un soir on rigole et puis on sent que ça va être pour la vie,
comme
avec Lucie quand on s'est rencontrés.
C'est
on a
mignon,
senti que ça allait être pour la vie. Non, mais c'est vrai que tout d'un coup, alors comme c'est de l'amitié, on se dit ouais c'est plus facile et tout ça. Tout d'un coup, si c'est quelque chose qui rentre dans une relation, dans un cadre amoureux, couple, qui pourrait amener au mariage et tout ça, tout d'un coup, ah alors là il faut mettre un cadre, il faut poser des limites, il faut se dire qu'est-ce que c'est le point de rupture et tout ça. Alors que dans l'amitié, en fait, tout est vachement plus simple. Et si on ramène à ça, qu'est-ce que c'est la fidélité dans l'amitié? Tout d'un coup, si on ramène ça au couple, ben c'est, pour moi, c'est à cet endroit-là que se place véritablement la fidélité.
Mais c'est une question d'attente. C'est une question de blesser quelqu'un que tu aimes. Mm-hmm. C'est ça, pour moi, ça me pose un problème, ça. Parce que je suis claire de comment moi, je vois les choses. Mais je vois, si j'entre dans une relation avec quelqu'un, il y a vite les attentes et je ne veux pas les blesser. Je suis très consciente de ça. Je ne veux pas décevoir la personne, mais je vois aussi que je ne vais pas être bien si je vais me sentir très bloquée, vite fait. Ouais. Et du coup, c'est hyper difficile à négocier ces attentes. Mais pour ça, en fait, je vois que c'est plus facile maintenant à repérer les gens avec qui je peux vivre les relations que je veux.
Comme tu l'entends, quoi.
Exactement. Ça se voit tout seul, ça se voit tout rapidement, quoi. Ouais. Et comme ça, c'est bien, quoi. Ça passe mieux. Ça passe mieux.
Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir, peut-être dans le public, et vous avez des quelque chose à dire au niveau de la fidélité?
Pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Ça n'a pas l'air de normal.
Alors déjà, tous les stagiaires de Lucie sont morts.
Ils sont morts, là, c'est vrai. Bon.
Ils sont.
Donc, vous vous rendez compte qu'on vous a posé une question.
Ils s'en foutent.
Non, alors, par exemple, pour moi, la fidélité, c'est quand même quelque chose de relativement. Enfin, c'est relatif, quoi. C'est tout un chacun. Je pense qu'à partir du moment, dans un couple où il y a une complicité, où il y a de la sincérité, après, voilà, tout peut être discuté, tout peut être pris en compte. Et tout peut être accepté aussi. Après, ça dépend de tout, comment c'est fait, dans quel but, dans quel état d'esprit. Mais à la base, je pense que si tu prends la peine de discuter avec ton ou ta partenaire en disant voilà, en discutant bêtement, et puis comme ça, il y a quand même cette complicité qui s'installe aussi, cette confiance qui est quand même, il faut le dire, difficile à avoir. Une confiance, c'est difficile. Par contre, tu la perds tellement facilement aussi. Ouais. Donc, Après, s'il y a cette notion de confiance, de complicité, je me dis que bah, après la fidélité, bah, c'est tout à fait relatif. Moi, en fin de compte, ça peut être tout un chacun de décider.
Chacun
de
crée sa fidélité, ouais, en voilà. Fait. Non,
moi, je mettrais au-dessus de la fidélité, je mettrais quand même franchise et honnêteté. Je crois que c'est le truc le plus important.
Non, mais ça, c'est la base.
Ça, c'est bien
mais
plus
c'est
fort,
dans toute relation avec une autre personne, de toute façon, que c'est des valeurs qui sont bien plus importantes que la fidélité. C'est l'honnêteté et la sincérité avec l'autre, et peu importe, dans n'importe quel cadre. Et ça, c'est effectivement...
C'est la base de tout, quoi.
La base de tout, oui. Quoi. Après, effectivement, c'est vrai que c'est drôle, cette pression qui apparaît quand même dans le couple, dans la relation amoureuse. Comme tu dis qu'il faut tout d'un coup discuter, il faut parler, tout ça, alors qu'avec un ami,
t'as pas cette jalousie ou c'est ce côté malsain
Et voilà, c'est drôle, ça. Parce qu'après, forcément, il y a la question de la jalousie qui rentre en compte.
Mais en amitié, tu te dois, entre guillemets, rien, en fin de compte.
Ouais, mais
dans un
couple non plus. Alors que c'est terrible ce qu'on se donne entre amis.
Oui.
C'est vrai que tu peux avoir deux amis très fidèles, deux meilleurs amis, mais pourquoi tu devrais t'interdire d'avoir deux amoureuses ou deux amoureux
Et puis pourquoi tu devrais t'interdire de rencontrer d'autres personnes qui pourraient devenir tes amis,
qui pourraient correspondre à tes attentes
et qui pourraient t'amener à grandir.
Tu es en train de me dire que tu as d'autres amis, toi?
Non, Lucie, tu sais très bien que je vis enfermée.
Lucie, tu es la seule.
Avec une photo de toi dans une pièce blanche.
Ouais,
d'un mètre carré.
Comme ça.
Donc la photo, elle est là-bas, la pièce blanche, elle est là.
C'est un peu gênant, ça devient un peu gênant, franchement, Jonathan.
Il faut arrêter cette émission à ce moment-là, je crois que c'était ça. Hein. On arrête là. On arrête
là. Okay. S'il te plaît.
D'accord. Elle pose le micro, mais pas de manière délicate.
Pardon.
On arrête, c'est.
Où est le flegme britannique?
Ça peut s'énerver.
Ah ouais, quand même.
Londonienne.
Ah, c'est impressionnant, hein.
Je pense que tu as pas fait ton tea time aujourd'hui. Tu es un peu sur les nerfs, comme ça.
Oui, c'est
pas facile à canaliser.
Ah ouais, c'est vrai qu'on a démarré l'émission à une super mauvaise heure pour elle.
Ouais.
On aurait dû décaler.
Donc c'est pas un mythe. En fait, à Londres, à 5 heures, vous arrêtez tout
mais
et
non,
vous faites le tea time.
Total.
C'est un mythe. Non, mais c'est une question existentielle pour moi.
On boit le thé. Le thé en Angleterre, c'est un truc sacré. Si les choses passent mal.
On boit le thé.
Put the kettle on. Put it on. Oui, okay. On met le... Ici, on ne peut même pas le dire. Le bouilloire.
Oui.
Bouilloire.
Oui, la bouilloire.
C'est même difficile à dire. Mais un test de thé, c'est comme... On a une crise. Do you want a cup of tea?
Ouais.
Tu veux?
On a un problème les deux.
Allez,
on résout le problème avec une tasse de thé.
On prend thé.
Ici, c'est avec le fendant, c'est différent.
Ouais.
Oui, voilà.
Ouais, on a chacun notre petit thé à nous, quoi.
Ouais, voilà. Exactement.
Bon, on a fait un petit peu le tour de ce sujet. On va revenir nécessairement quand même là-dessus tout à l'heure, mais ça sera plus au niveau cette fois-ci sexuel avec les couples libres. Nécessairement, on en parle dans le milieu, dans la communauté LGBT, couple libre, couple exclusif. Ça sera donc d'ici quelques instants. Juste avant ça, on va retrouver notamment Aymeric. Aymeric, chargé de prévention de l'antenne SIDA Vallée-Romand, qui va nous parler de Break the Chains. Ça se déroule en ce moment. On va aussi retrouver Paul avec sa chronique. Êtes-vous queer? Mais il veut rien nous dire, donc on va pas lui demander qu'est-ce qui va se passer.
Non.
Ah oui, c'est un plasticien.
Surprise.
C'est juste...
Oui, c'est un plasticien.
Surprise. Donc, surprise.
J'adore.
Un artiste en plastique.
Non, il est pas en plastique.
C'est une poupée Barbie.
Non.
Gonflable.
Je te montrerai des photos. Il a rien à voir avec une poupée Barbie.
Ouais.
C'est l'inverse.
C'est Ken.
Non. Si tu prends Barbie, tu
il
prends
est pas
le.
De près.
Pas
vraiment rasé de près.
Rien.
Bon, on en parle d'ici quelques instants dans cette émission sur Vibration Gay Radio. Voici Dua Lipa, tout de suite.
Pardon. I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Come back to me, baby.
Chromosome X sur Vibration Gay Radio.